Pierce.
Ils sont beaux comme des camions, frais comme des gardons et surtout fin prêt pour vous raconter les articles les plus étonnants de la presse ce matin. C'est le Pressing avec ma chère Ombline Roche et mon cher Paul Lassen qui nous a rejoint. Bonjour Paul.
Bonjour à tous.
Honneur à vous, ma chère Ombline, ce matin. On vous écoute.
Le savoir-faire français ne s'arrête pas à la cuisine, le vin et le cabaret.
Le roi
venir.
Ça, c'est pas français.
C'est les experts.
Exactement. Point, point. La police française aussi. Voilà. Le savoir-faire de la CRIM est également reconnu à travers le monde. La CRIM exporte son expertise à Mexico. C'est le titre de cet article du Figaro aujourd'hui. Le président du pays, Andrés Manuel López Obrador, et la maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, en espagnol, ont décidé de reprendre en main la ville, d'en faire une vitrine de l'enrayement de la délinquance.
Il y a du boulot, je crois.
Ouais. Mexico, c'est un taux d'homicide 10 fois plus important qu'en France. Un taux d'élucidation des crimes inférieur à 1%. On est à 60-70 hein, en France quand même. C'est beaucoup moins. Sur 100 procédures criminelles au Mexique, dans le cadre d'un flagrant délit, une seule aboutirait à une condamnation. Dans le secteur d'Itzapalapa, le plus peuplé de Mexico, on en est aujourd'hui à au moins 2 meurtres par jour. Constat charmant. Mmh. Il se trouve que la CRIM française cultive une tradition de formation à l'étranger, direction donc Mexico, en immersion pour comprendre ce qui ne fonctionne pas. Constatation affligeante. Leurs homologues mexicains ne se concertent jamais. Quand un meurtre est commis, c'est le commissariat local qui est dépêché. Les policiers attendent parfois 2 mois avant de transmettre le dossier aux autorités compétentes. Alors autant vous dire que la scène de crime entre-temps a été largement polluée, piétinée, bonjour, pour trouver les indices. De retour à Paris, les experts ont rédigé un rapport avec 43 recommandations, comme la création d'une unité spéciale avec des experts mexicains en blouse blanche formés. Voilà, cette expérience française pourrait être étendue dans d'autres villes du pays pour lutter notamment contre le fléau des kidnappings. Voilà, le savoir-faire de la CRIM et de la police judiciaire française, c'est d'ailleurs dans le Figaro, c'est hyper intéressant.
Merci beaucoup. Ombline Roche, eh bien oui, nos experts aussi s'exportent.
Exactement.
Il n'y a pas que le vin et le fromage.
Nos experts français s'exportent.
Oui, c'est pas mal pour les dyslexiques. À vous, mon cher Paul.
Alors moi, en pleurant la mort de Kobe Bryant hier soir, j'ai traîné ma peine devant la télé et je suis tombé là-dessus sur France 5.
Regardez la magie.
Un bon fromage de montagne.
Il est plein de petits trucs qui pétillent, plein de saveurs.
Et aussi...
Et oui, un documentaire sur les fromages de montagne. Ah, chic alors. Du fromage pour se remonter le moral. Qu'est-ce qu'il y a de mieux, surtout que quelques secondes plus tard...
On va faire la tartiflette dans les règles de la Haute-Savoie.
Alors voilà, autant vous dire qu'après mon plat de coquillettes au jambon, je n'ai qu'une envie, c'est de me faire un deuxième repas. Un chef nous prépare donc sa recette en direct, mais...
20 minutes plus tard, la tartiflette est prête. Le chef l'ignore. Mais cette recette n'a rien de traditionnel.
Quoi ?
Et voilà.
Et oui, Julien.
Quoi ?
Et oui, Julien. L'un des plus grands mythes de votre région est tombé sous mes yeux et sous les yeux de centaines de milliers de Français.
Non.
Oui, puisque la tartiflette aurait été créée de toutes pièces dans les années 80. Tenez-vous bien. Par le syndicat des producteurs de reblochons. La fameuse tartiflette ancestrale, comme elle est nommée dans le fameux guide Le Goût et Mio, n'a donc rien d'ancestral et c'est pour booster le marché qu'elle a été créée. Pourquoi nous avoir menti ? Eh bien, à l'époque, le fromage, le reblochon est très peu populaire, ses ventes sont même en très forte baisse. Du côté du syndicat, on dément sans vraiment démentir. Nous ne sommes pas à l'initiative de la création de cette recette, même si on ne peut pas nier que la filière en a bénéficié. Mais alors, qui dit vrai ? Eh bien, la réponse.
Mais c'est pas si vieux que ça, on pourrait quand même retracer les origines de la tartiflette.
Eh bien, oui, puisque la réponse se place à peu près entre les deux. Les professionnels du reblochon expliquent qu'une recette similaire, la Pella, a été inventée au XXe siècle. Lors d'une période de surproduction de reblochons. Une fricassée de pommes de terre, pour être exact, recouverte de reblochons fondus. Une recette qui aurait connu un succès fou dans les stations de sport d'hiver et c'est suite au changement de nom que le syndicat a foncé pour se saisir de l'opportunité qui, ne nous mentons pas, fait aujourd'hui le plaisir de toutes nos bonnes tablées en hiver.
Premier qui fait tomber son pain dans la fondue, un gage.
Ouais. Ça, la minufile, c'est un mangeable.
Oh, alors, si c'est une blague, elle est de mauvais goût. Hein.
Merci Bernard. C'est une blague de crétin, ça. Tiens, mon œil.
Merci Bernard.
Les bronzés, c'est immortel, ça aussi. Mais là, on parlait de fondue.
De tartiflette.
Et là, la fondue.
Alors, je ne vais pas dire pourquoi j'ai mis un extrait des Bronzés dans ma chronique.
Parce que je l'ai demandé, en fait. Je vais être très honnête avec nos auditeurs. J'adore ce film. Enfin, j'adore ces films. Et voilà.
Donc, mais toutes les occasions sont bonnes.
Toutes les occasions.
C'est comme Bourville, les Bronzés.
Ouais, ça marche partout.
Ça se place partout.
Les amis, est-ce que vous savez qui était Nessiamon?
Un joueur de foot?
Non.
Je le sais, mais je vais vous laisser le dire.
Alors, c'était un prêtre et un scribe égyptien qui a vécu il y a 3000 ans environ. Il travaillait au temple de Karnak à Thèbes sous le règne de Ramsès XI. Et à sa mort, à 50 et quelques années, son corps a été momifié. Eh bien, nous sommes en ligne avec lui. Bonjour Nessiamon. Ah, il semble qu'on a un petit problème de liaison avec cette momie. Bon, trêve de plaisanterie. Ce que vous venez d'entendre, voilà, eh bien, c'est la voix de cette momie. Eh oui. La voix de cette momie. En raison de son exceptionnel état de conservation.
Ça va pas mieux, vous, hein?
Non. Des chercheurs américains et britanniques, c'est pas moi qui ai fait l'expérience, hein. Ils ont réussi à reproduire la couleur vocale de cet homme mort il y a plus de 3000 ans. Grâce à un scanner à rayons X, nous apprend Science et Vie, les scientifiques ont mesuré de manière très précise les dimensions de ce qu'on appelle le tractus vocal de cette momie. Autrement dit, tout ce qui participe à la création de la voix, c'est-à-dire le larynx, les cavités buccales et nasales. Avec les données obtenues, ils ont reproduit ce tractus grâce à une imprimante 3D et ont ensuite ajouté un larynx électronique. Le résultat, s'il veut bien... Voilà, le résultat n'est pas un mot. Allez-y Nessiamon, on vous écoute. Mais un son sous forme de voyelle, comme vous pouvez l'entendre. En effet, en l'absence de sa langue et des lèvres, c'est le maximum qui pouvait être obtenu de la momie. Alors dans ses écrits, et c'est là où ça devient assez rigolo, Nessiamon avait fait part de son désir de faire entendre sa voix dans l'au-delà afin de vivre éternellement. Et bien grâce à ses chercheurs, c'est désormais chose faite 3000 ans plus tard. Merci beaucoup Nessiamon d'avoir été en ligne avec nous. Même brièvement, c'était un plaisir. Le pressing, c'est fini pour aujourd'hui, les amis, et je vous dis à demain.